Monnaie libre, No More Dreams, The Nighter, sous licence libre, c'est notre générique. Aujourd'hui, nous allons, après les bitcoins que nous avons vus la dernière fois, parler d'un autre projet de monnaie libre qui se nomme OpenUDC. Et nous recevons Janer. Salut Janer.
Bonjour Stéphane.
Alors, tu peux te présenter à nos auditeurs?
Oui, bien sûr. Alors, donc en fait, j'ai commencé une première année de thèse en octobre 2011. C'est une thèse en informatique. Je travaille plus exactement en optimisation informatique, donc c'est de l'algorithmie. Et l'objectif de la thèse, c'est d'inventer toujours des algorithmes, en fait, toujours plus poussés pour résoudre des problèmes dits difficiles à résoudre par des algorithmes classiques. Donc, en contraste avec le projet, il n'y a pas de rapport direct, mais ça reste de l'informatique, voilà. Voilà pour la présentation.
Il y a quand même un peu d'algorithmique, non, dans un projet comme OpenUDC?
Oui, c'est ce que je disais, effectivement. Il y a de l'algorithmique, il y a toute une phase de développement, toute une phase de réflexion sur les complexités algorithmiques, etc. Voilà.
D'accord, donc en fait, tu es un vrai informaticien, même un chercheur en informatique, parce qu'un thésard, c'est un chercheur, en fait.
Exactement, oui. J'ai effectivement un bagage en ingénierie informatique aussi. Hein. Donc voilà.
Alors parle-nous de ce projet OpenUDC, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord OpenUDC?
Alors OpenUDC, bon, dans un premier temps, vous pouvez directement accéder à une description détaillée d'OpenUDC sur l'adresse openudc.org,
oui.
Voilà, donc en un mot. Alors en ce qui concerne OpenUDC, donc open pour ouverture en fait, ça c'est un terme qui est utilisé... qui est utilisé généralement pour définir des protocoles en fait à la fois sur Internet mais plus largement en fait dans l'informatique.
Oui.
Et UDC veut pour Universal Dividend Currency.
Ah, Universal Dividend. Donc il y a une notion de dividende au sein de cette monnaie.
Tout à fait, voilà. Alors dividende universel pour exprimer en fait le fait que l'on verse un il y a une distribution d'une quantité monétaire, enfin d'une masse monétaire qui est versée de manière uniforme à tous les individus, à tous les membres finalement d'une zone économique dans laquelle le logiciel, enfin en tout cas le protocole de OpenUDC agit. Voilà.
D'accord, donc ça veut dire que les membres finalement d'une monnaie OpenUDC sont in fine les réceptionnaires de la création monétaire, c'est ça?
Tout à fait, voilà.
Donc à contrario du Bitcoin qui lui se génère indépendamment du nombre de membres finalement, puisque...
Ah, voilà, effectivement. Alors pour ce qui est du mécanisme de création monétaire, puisque c'est là effectivement qu'on en vient, à la différence effectivement de Bitcoin, où la monnaie est créée par le calcul machine en fait. Hein.
Oui.
Si avec OpenUDC, le processus se fait de manière... démocratique, il y a en fait les membres décident au départ, au moment où la monnaie est créée, de l'augmentation de la masse monétaire qui doit être faite chaque année, ou à une fréquence donnée. Ça c'est aussi un paramètre qui peut être géré par les membres de la communauté monétaire, et donc à chaque année, chaque mois, peu importe la fréquence, il va avoir effectivement cette masse monétaire qui va être redistribuée donc à tous les membres, voilà, de manière uniforme.
D'accord, ça veut dire donc, résumons, on a un taux finalement qui est fixé au départ d'une monnaie OpenUDC, un taux de croissance de la masse monétaire qui dépend de la masse monétaire existante, du nombre de membres, et
voilà.
Qui se distribue équitablement entre les membres présents et qui ne change pas pour les membres futurs.
Alors, il ne change pas pour les membres futurs. Quoi qu'il en soit, il y a tout de même un paramètre que l'on prend en compte dans OpenUDC qui est une augmentation à minima de la masse monétaire de manière à éviter tous les risques d'inflation, en fait, hein, donc les montées de prix, justement. Donc ce dividende finalement que tous les membres reçoivent est tout de même croissante avec le temps, voilà, puisque les générations passées de la même zone ne vont forcément pas avoir les mêmes le même comment dire le même coût de la vie, hein, si on peut estimer le coût de la vie, mais on va voir que ce sera pas facilement estimable, avec le coût de la vie des membres présents. Voilà.
Alors donc ça veut dire que donc qu'on soit aujourd'hui ou dans 50 ans, si on suppose qu'une communauté OpenUDC existe, disons, se développe sur 50 ans ou plus, eh bien la quantité relative de monnaie distribuée à chaque membre ne change pas.
Voilà, c'est ça, exactement.
D'accord.
Mais donc, dans l'absolu, effectivement, elle change. Hein.
Voilà. Alors elle change en valeur, c'est ça, oui, parce qu'elle ne change pas en valeur relative, mais elle change en valeur numéraire. C'est-à-dire que,
voilà,
évidemment, s'il y a... Alors l'idée, c'est que s'il y a, on va simplifier l'idée, c'est-à-dire s'il y a 5000 milliards, par exemple, d'euros en circulation en 2000, en 2012, on sait qu'il y a plus de 10 000 milliards en circulation, donc il y en a deux fois plus. Donc évidemment, si vous avez le même salaire en 2000 et en 2012, à population à peu près constante, vous êtes floué, parce qu'en fait, en réalité, il y a deux fois plus de monnaie en circulante.
Exactement.
Donc là, l'idée, c'est d'éviter ce problème-là, et c'est de dire que la création de monnaie, elle est faible, elle est continue, mais en tout cas, elle est relative à la masse monétaire. D'accord, donc là, il n'y a pas de potentialité de tromper l'ennemi, quoi, hein, on va dire. D'accord, donc ça, c'est le principe OpenUDC. Alors, évidemment, je suppose que c'est beaucoup plus compliqué que le Bitcoin, puisque du coup, il faut identifier les membres et que les membres aient une identification unique.
Hein. Exact, tout à fait. Alors, il y a effectivement tout un procédé, puisque il y a deux choses, effectivement. Il faut à la fois déterminer le côté nominatif effectivement des membres, hein, de pouvoir leur verser une seule et unique fois le dividende, et à la fois en parallèle on essaie de pouvoir garder tout de même ce concept d'anonymat que Bitcoin procure justement à ses membres. Et alors, pour ce faire, je ne sais pas si on a besoin de rentrer dans les détails, mais dans les faits effectivement on se base sur ce qu'on appelle la toile de confiance. C'est basé sur les protocoles OpenPGP.
D'accord, donc c'est une histoire de...
Excuse-moi Stéphane, juste pour terminer, il y a en fait un ensemble de nœuds qui déterminent le réseau, enfin cette toile de confiance.
Oui.
Et l'idée c'est de créer des niveaux d'indirection entre les nœuds. Donc au lieu de s'identifier directement avec un nœud de cette toile, et de communiquer tout de suite avec un récepteur, émetteur-récepteur de la monnaie échangée, il y a en fait plusieurs indirections, donc il y a plusieurs nœuds qui vont à chaque fois, décrypter une identification partielle, voilà, jusqu'à obtenir l'identification totale pour pouvoir communiquer avec le destinataire.
D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la partie technique. Donc,
oui.
En gros, ça veut dire que chaque utilisateur va avoir une clé privée et une clé publique. C'est le principe de la cryptographie asymétrique.
Dans les faits, oui, c'est ça.
Voilà. Alors, c'est d'ailleurs amusant puisque c'est un principe de clé asymétrique, donc non symétrique, qui va permettre à une monnaie symétrique, elle, d'exister.
Exactement, oui.
On est d'accord. D'accord, donc le principe, on a compris. Donc en fait, les membres, donc on a une clé unique. Alors je crois aussi qu'il y a un principe de reconnaissance par un minimum de membres de la communauté existante d'un nouveau membre entrant. Bien sûr, il doit être validé finalement physiquement, hein, j'ai presque envie de dire visuellement, lors de son arrivée, mais par un nombre de membres préexistants dans la communauté.
C'est tout à fait, en fait, je dirais à l'image en fait d'une constitution. En fait, ici, effectivement, on va définir un ensemble de paramètres au lancement de la monnaie, notamment ce minimum effectivement de membres préexistants dans la zone qui doivent effectivement donner leur accord pour qu'un nouveau membre puisse entrer. Là, par exemple, on parle de 2/3 dans le cas d'OpenUDC, mais ça peut varier. Mais bien entendu, il faut éviter de varier ça, il faut éviter de changer tous ces paramètres-là une fois que la monnaie est enclenchée, de manière à ce que les membres puissent la faire confiance. Parce que vous imaginez pas l'instabilité de la monnaie qui peut avoir euh, qui, peut avoir lieu si à tous les, enfin tous les ans, il y avait à chaque fois des changements de paramètres, comme le fait que ben, si demain on si les membres décident que ah ben non, une seule personne peut décider pour tout le monde des changements dans cette, ben, cette pseudo-constitution, parce que ça revient effectivement au procédé de la constitution. Donc là effectivement voilà, il y a des paramètres qui sont définis au départ. Et ces paramètres-là, on essaye de faire en sorte qu'elles restent les mêmes jusqu'à, enfin, pendant tout le fonctionnement, toute la vie effectivement de la monnaie.
Voilà. Toute la vie de la monnaie, bien sûr. Donc, alors, il y a quand même la possibilité a priori de le modifier aux deux tiers, hein, comme une constitution. Okay. Donc, mais ça devrait pas avoir lieu, sauf si la monnaie avait été vraiment mal paramétrée et qu'on démontrait que bon, le taux était par exemple le taux était pas tout à fait parfaitement calibré quoi.
Exactement, et j'ajouterais en fait que le projet étant justement un projet libre, il y a donc toute une philosophie derrière du logiciel libre, mais ça s'étend maintenant même aux œuvres plus généralement.
Oui.
Aux œuvres de l'étude plus généralement. Donc l'idée effectivement c'est d'avoir une transparence totale.
Oui.
À la fois sur le code monétaire en fait qui en découle, mais aussi sur la gérance en fait, la gestion, les décisions aussi qui sont faites justement de ce code monétaire. Voilà.
Ouais. Donc alors là tu viens de signaler un point très important qu'il faut comprendre quand on parle des monnaies, c'est évidemment la distinction qu'il y a à faire entre d'une part le code des logiciels qui va porter cette monnaie, donc Bitcoin ou OpenUDC de ce côté-là ne vont pas être différents puisqu'ils vont tous les deux être porté par des logiciels à code libre, sous licence par exemple ouais. GPL, d'ailleurs je crois que c'est le cas d'ailleurs dans les deux cas.
Oui, c'est exact, c'est en licence GPL.
La fameuse licence historique ouais. Et fondatrice du mouvement libre de Richard Stallman, hein. Rendons à César ce qui lui appartient. Rendons à Stallman ce qui lui appartient. Donc les logiciels sont libres dans les deux projets bien sûr. Alors ce qui va différencier le Bitcoin d'OpenUDC, c'est une autre part de code qui elle est indépendante des logiciels en tant que tel, ou de la licence des logiciels en tant que tel, c'est le code de la monnaie elle-même, qui lui-même doit se questionner. On voit bien la différence. Pour le Bitcoin, on en a parlé dans la dernière émission, et je vous invite à écouter le podcast relatif à cette émission, où Pierre Noizat, Boussac, nous a parfaitement résumé le code de fonctionnement des Bitcoins. Là, on a une monnaie qui est limitée dans le temps, en tant que quantité, et qui est créée sur la base d'un processus algorithmique. Donc les premiers entrants qui sont dotés des machines les plus puissantes vont récupérer la plus grosse part de la création des bitcoins et pourront peut-être, si les communautés acceptent d'échanger en bitcoin, mais pourront peut-être profiter de cet avantage qui devient un avantage très fort pour garder un pouvoir monétaire sur autrui en quelque sorte. Alors que dans OpenUDC, cette mécanique-là ne marchera pas puisque la monnaie étant créée de façon continue entre les générations, eh bien quelqu'un qui voudrait thésauriser la monnaie, au bout d'un temps assez long quand même, mais au bout de 15 ou 20 ans, verrait son avantage de thésaurisation réduit à néant en quelque sorte.
Réduit à néant. Oui. Alors justement, oui, il y a un contraste important entre les deux projets. À la fois, dans le cas de Bitcoin, effectivement, on constate une asymétrie entre les premiers arrivants et les derniers arrivés. Si on fait maintenant donc la différence avec OpenUDC, il y a deux paramètres importants qui rentrent dans le cadre du protocole OpenUDC. C'est à la fois la symétrie qu'on appelle temporelle.
Oui.
C'est-à-dire que les membres présents ont les mêmes droits et les mêmes avantages que les membres futurs. Donc il n'y a pas de personnes avantagées en fait dans cette dimension temporelle. Et pour cela, effectivement, on prend en compte un paramètre comme l'espérance de vie pour considérer cela justement.
Alors c'est l'espérance de vie.
En même temps, effectivement, on a la symétrie dans l'espace.
C'est l'espérance de vie, juste pour finir sur ce point, c'est l'espérance de vie moyenne, hein, c'est pas l'espérance de vie individuelle.
C'est l'espérance de vie moyenne, oui, bien entendu. On ne peut pas prendre effectivement individuellement l'espérance de vie de chacun, et de toute façon, on ne pourra pas l'estimer.
Oui, bien sûr. Donc c'est la moyenne. C'est la moyenne.
C'est une espérance de vie moyenne et globale, en fait, pour, pour l'ensemble des membres qui vont donc venir et partir effectivement dans cette monnaie.
D'accord, donc ça c'est asymétrie temporelle. Bon, de toute façon c'est fixé au départ, a priori une fois que c'était fixé ça ne bouge plus. Alors évidemment si l'espérance de vie des hommes venait à exploser et passer de 80 ans comme aujourd'hui à 500 ans, il faudrait peut-être revoir ce paramètre. Bon, on n'en est pas là.
On en est pas là. L'intérêt justement de pouvoir tout de même donc modifier le code monétaire. D'essayer de faire tout le moins possible de manière à garder la confiance en la monnaie. Voilà.
Ouais, mais on comprendrait d'ailleurs que sur Terre, il puisse y avoir des écarts entre des pays où l'espérance de vie est encore de faible, hein, de l'ordre de 30 ans ou 40 ans, ça existe, hein, et puis des espérances de vie occidentales qui sont plus proches de 80-85. Donc là, on verrait qu'effectivement, ça pourrait justifier des écarts de taux de croissance de la monnaie différents de ce point de vue-là. Alors donc, et le deuxième point, c'est le plus simple à comprendre, c'est l'asymétrie spatiale, donc chacun reçoit la même chose.
Exact, voilà, tout à fait.
Ouais, à un instant T, la monnaie créée est le même, donc voilà. D'accord, donc ça c'est le principe fondateur, d'accord. Alors, on voit ce code monétaire, on a vu logiciel libre, très bien, openudc.org, ça c'est le nom du site. Très bien, alors on va parler maintenant un peu plus de l'état d'avancement de ce projet qui est encore en développement, je crois.
Alors exact, oui, on est toujours en développement, mais on a quand même, on a avancé énormément. On a eu notamment en fait une présentation au RMLL, donc aux Rencontres Mondiales du Logiciel Libre, l'année dernière.
Oui.
Alors pour situer en fait donc l'état d'avancement du projet, on a déjà en fait défini les concepts fondamentaux du projet, notamment par le biais d'un ensemble de spécifications. Pour cela, il y a des protocoles et des standards donc à toujours à l'état de draft en fait, de brouillon en fait, qui ont été donc finalisés. Reste que bien entendu, si il y a encore des modifications à faire, on pourra toujours les remanier. Mais voilà, donc ces étapes-là, elles ont été faites et on a commencé, on a entamé en fait la partie programmation. Donc on en est effectivement à tout ce qui est effectivement protocole d'échange, toile de confiance, enfin toutes ces technologies qui vont être regroupées et qui vont être réutilisées dans le projet OpenUDC. Donc il y a tout un travail d'intégration effectivement qui doit être fait aussi.
Et on a vu dernièrement, je crois, il y a des contributeurs anglicistes, hein, étrangers, hein, qui ont rejoint le projet.
Exact, oui, oui, effectivement, il y a pas mal de supporters qui rendent maintenant fréquemment qui nous rendent fréquemment visite effectivement notamment sur le salon de discussion. Mais il y en a d'autres effectivement qui participent aussi depuis la liste de diffusion. Donc effectivement si des gens sont intéressés par le projet, je vous invite à venir poser notamment vos questions ou tout simplement vos remarques. Par ces moyens par ces outils et par ces moyens de communication.
D'accord. Pour parler de ça, de cette contribution d'étrangers, on voit bien aussi que ben, finalement ce problème monétaire qui surgit actuellement et pour lequel on voit se développer des projets comme ça sur Internet de monnaie complémentaire, on en a vu plusieurs. On avait à un moment donné, il y avait aussi les toilers, hein, les espèces de pseudo Twitter dollars qui avaient émergé sur Twitter. Bon, ça s'est vite éteint parce que justement les principes de création de cette monnaie n'étaient pas clairs. Hein. Mais on voit bien que ça explose notamment, et l'analyse qu'en fait OpenUDC, c'est que ça explose à cause justement de la non-symétrie temporelle au sein du système monétaire officiel. Et quand on voit les indignés ou les Occupy Wall Street et toute la jeunesse, hein, finalement qui se révolte, hein, en quelque sorte, hein, devant la situation économique et financière et puis la profonde injustice qui est visible. On sauve évidemment les banques, mais les autres activités économiques ne sont pas sauvées. C'est-à-dire les autres ont le droit de rembourser, mais les banques non, en fait. Hein. Les banques ne sont pas censées assurer ce qu'elles étaient censées assurer au départ. Est-ce que c'est pas finalement la prise de conscience de cette profonde asymétrie, non-symétrie temporelle qui pousse.
On a constaté depuis effectivement le siècle dernier et même avant, je pense. C'est finalement ces crises cycliques,
oui.
qui nous poussent effectivement à des crises et à chaque fois des remises en question. Donc dès qu'on a effectivement atteint un certain pic de crise et de manque de monnaie, hein, puisque c'est ce qui arrive, et ben effectivement, on a affaire à des remises en cause. Et je dirais qu'OpenUDC, effectivement, est une réponse à ces remises en cause qu'on a eu et constaté effectivement à cette dernière crise, effectivement. Donc voilà.
D'ailleurs, on voit que la notion de cette notion de dividende ou de revenu de base, c'est le thème qui s'impose un peu aussi un peu partout. Il y a le Basic Income Earth Network. On voit qu'en Allemagne aussi, le parti pirate a inclus le revenu de base dans son programme. Cette notion de revenu de base commence à être comprise comme étant une réponse directe et profonde au changement de paradigme nécessaire dans notre système économique et monétaire, et commence à être portée au sein des mouvements de tous les jeunes qui réagissent dans tous les pays du monde où la crise frappe.
Exactement.
D'accord, on est bien là-dessus. Hein. Bien, alors, dernier point, alors s'il y a des supporters d'OpenUDC mais qui ne sont pas informaticiens ou disons qui font des travaux informatiques mais pas forcément au niveau du code comme des graphistes ou comme des webmasters ou comme des gens qui savent tenir des blogs ou des choses comme ça, est-ce qu'ils peuvent participer au projet et comment et quels sont les...
Oui, bien entendu, en fait on est ouvert effectivement et là c'est un appel sincère effectivement. À l'aide donc de la communauté, effectivement, si vous êtes graphiste, développeur, si vous voulez rendre le projet plus ergonomique pour les utilisateurs, donner une meilleure expérience utilisateur, enfin vraiment, on est ouvert à toute contribution au projet. Et donc pour cela, il vous suffirait de nous envoyer soit un mail par le biais de la liste de diffusion qui est donc disponible et accessible depuis le site internet, donc openudc.org, openudc.org. Et pareil, si vous êtes graphiste, designer, donc on est aussi ouvert, il y a pas mal de choses encore à changer, on a un logo encore tout moche à remplacer, un travail effectivement à faire au niveau de la communication, etc. Donc voilà, donc là aussi on est ouvert, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous et puis on pourra justement donc planifier et puis définir effectivement les choses à faire, voilà.
D'accord, donc on peut participer aussi si on n'est pas forcément informaticien et qu'on a envie de supporter le développement d'une monnaie libre alternative comme OpenUDC basée sur un dividende universel. Donc il suffit pas d'attendre que ça vienne, quoi. Il faut peut-être aussi donner un petit coup de main quand on peut le faire à tous les niveaux.
Exactement.
Là, c'est le principe de toutes les participations. Alors ça peut être aussi remplir la FAQ, hein, la Frequently Asked Question, hein, les questions fréquentes pour ceux qui ont compris et qui voudraient expliquer à ceux qui
ont... Documentation, traduction...
Voilà, tout
est... Il y a énormément de choses à faire, effectivement.
Il y a toujours plein de choses à faire, bien sûr. Beaucoup de... Oui, en traduction. Alors, je crois que la langue qui a été choisie pour l'instant pour communiquer, c'est l'anglais. D'accord. Eh bien, merci, Janer. Peut-être un dernier mot. Les prochaines étapes du projet OpenUDC,
Moi, je travaille donc directement avec Gibar, qui est le développeur et on peut le nommer effectivement chef de projet effectivement du projet OpenUDC.
Mais c'est le fondateur même tout simplement.
Et effectivement là les étapes qui vont suivre effectivement c'est du développement, c'est essentiellement du développement. On en est effectivement à la partie développement en fait des nœuds de intermédiaires effectivement qui vont permettre effectivement de fonder effectivement cette toile de confiance. Je parlais tout à l'heure de toile de confiance OpenPGP.
Oui.
Donc effectivement, donc il y a tout un travail là-dessus qui est en cours.
D'accord.
Donc là pareil, il y a des volontaires effectivement, des spécialistes dans les toiles de confiance, dans la crypto, etc. Donc on est aussi ouvert.
En France, il n'y en a pas beaucoup.
Voilà, ça ne peut faire qu'avancer davantage le projet.
Ouais, mais ça, alors, en France, il n'y en a pas beaucoup sur ce sujet-là. Hein.
Oui, effectivement, c'est pas un sujet courant, effectivement. Et puis ne serait-ce même le principe des clés à pair, effectivement, des clés de paires de clés, effectivement, n'est pas quelque chose de courant. Et on commence à l'utiliser avec les protocoles d'échange de mail. Mais l'idée effectivement c'est de le porter sur une monnaie libre, donc Voilà, c'est des choses nouvelles, donc bon. Voilà.
D'accord. Donc l'agenda, c'est l'avancée sur le développement maintenant que les spécifications ont été terminées, on a bien compris. Alors, il faut rappeler que c'est quand même un projet assez jeune, puisqu'il a un peu plus d'un an d'existence, un an et quelques mois. Donc, on a compris aussi que le développeur vedette, hein, c'est Jibar, c'est lui qui a fondé le projet. Donc, on aura sans doute l'occasion de l'interviewer sur Monnaie Libre, bien sûr, sans doute à la rentrée pour savoir où en est l'avancée du projet et tenir au courant nos auditeurs qui veulent s'informer sur l'avancée des monnaies libres à côté du Bitcoin, qui bon, mais a ses avantages aussi. Il existe au moins, lui, déjà tout de suite, il est utilisable. Mais comme on l'a vu dans la dernière mission, il y a un certain nombre de problèmes et il y a déjà des forks d'ailleurs qui sont fait jour, d'autres chaînes de Bitcoin qui se génèrent justement peut-être parce que justement la symétrie temporelle n'est peut-être pas assurée. Alors après, à vous de choisir. En tout cas, nous on vous éclaire sur la possibilité d'avoir des codes monétaires différents et donc que la vraie liberté, c'est de voir ces codes, comme disait Olivier Houbert très bien, de voir la perspective numérique, de voir quel code il y a derrière et donc de choisir celui qui vous convient le mieux.
Et il a tout à
Bien,
fait raison.
il a tout à fait raison. Alors nous, on pense sur Monnaie Libre qu'OpenUDC remplit mieux les conditions de la liberté d'une monnaie pour tout un tas de raisons qu'on développe régulièrement dans cette émission. Alors, mais comme on est défenseur de la liberté, évidemment, on va quand même parler aussi des autres monnaies, dont le Bitcoin, et on va supporter le développement d'autres codes monétaires, puisqu'il n'y a pas de liberté sans choix, hein, ça n'existe pas, ça.
Et il y a peut-être un point où j'ai pas insisté, effectivement, c'est le fait que le projet OpenUDC, avant d'être un logiciel libre, c'est surtout en fait un ensemble de protocoles et de standards qui définissent ce qu'est une monnaie libre. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi orienter en fait sur ce que devrait être, d'après nous, une monnaie libre, justement. Voilà.
Ouais, et notamment
Ouais. Voilà.
cette fameuse notion de symétrie à la fois spatiale et mais aussi surtout temporelle.
Voilà, tout à fait.
Que les derniers arrivants ne soient pas, comme dit l'autre, gros gens comme devant. Et un peu mis devant le fait accompli que voilà, la monnaie, c'est nous qui l'avons créée, elle est là, mais si t'en veux, tu peux travailler pour nous, quoi. En gros, c'est ça. C'est un peu le principe. Alors donc, c'est d'éviter ce principe-là, que la création monétaire soit réservée aux uns et non pas aux autres. Et que le reste se fasse sur le vrai apport de valeur ajoutée que peuvent avoir les uns ou les autres. Hein.
Voilà, parfaitement.
Bien. Eh bien, si tant est qu'on pouvait mesurer véritablement cela, ce qui peut évidemment se questionner au plus profond et ce qui n'est pas clair du tout. Merci, Janer, pour ta contribution à l'émission Monnaie Libre, pour nous avoir parlé
Merci à toi, c'est pas de m'avoir reçu, oui.
d'OpenUDC. Donc, on peut te retrouver sur openudc.org.
Tout à fait.
Et on te dit à bientôt pour une prochaine fois et on reparlera du projet OpenUDC sur Monnaie Libre et on va se quitter sur notre générique fétiche. Et toujours sur licence libre, hein, sur Monnaie Libre, bien sûr. No More Dreams!